Micro ouvert. Micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Nous sommes le 11 juillet 2023. C'est l'heure de Micro ouvert, épisode 10. Jouer ensemble pour dépasser nos différences. Une ludothèque est un espace pour jouer, s'amuser, se détendre, mais aussi réfléchir, être stimulé et comprendre. Un lieu où les sens sont à l'affût pour tenter de gagner la partie. Un endroit idéal pour amener le public, petits et grands, à être sensibilisé au handicap pour mieux le dépasser. C'est le but de l'association marseillaise d'Aselka, ludothèque ambulante pédagogique spécialisée adaptée pour tous et tous que Abderrahmane Bataoui a montée il y a 10 ans. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce 10e micro ouvert Marie-Claire Martin, la vice-présidente de Daskla, ainsi que Abderrahmane Bataoui, son président, afin de parler des enjeux de la sensibilisation au handicap. Bonjour.
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 Et bienvenue, merci d'être venu jusque dans nos studios de Marseille.
Merci à vous.
Retrouvez nos reportages et émissions sur www.fréquencemistral.com.
Pour commencer, Abderrahmane, un petit pas en arrière en 2013. Pourquoi avoir monté cette ludothèque adaptée ?
Alors, nous avons créé cette ludothèque pédagogique spécialisée adaptée pour tous en 2013, mais nous l'avons préparée quelques années un peu avant. Pourquoi ? Parce qu'étant petit, je ne pouvais pas jouer aux jeux de société comme tout le monde, parce que je suis malvoyant. Donc on était toujours obligé de jouer avec moi, on jouait à deux et les autres jouaient seuls. Et ça m'embêtait qu'il y avait toujours une personne qui voulait toujours m'aider, et je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas des jeux de société à adapter pour les non-voyants et d'autres handicaps ? Et petit à petit, adolescent, j'ai appris le braille à l'école et donc j'ai écrit tous les jeux qui étaient avec des cartes, on les écrivait en braille pour pouvoir jouer seul et avoir de l'autonomie. Et après j'ai mis ça de côté, j'ai travaillé, ça m'est revenu. Et nous avons créé deux ans avant pas mal de jeux en braille, en gros caractère, en relief, tactile. Que tout le monde puisse jouer petit à petit. Nous avons fait énormément de jeux de société adaptés pour tous.
Donc c'est votre passion du jeu finalement qui vous a donné envie d'adapter ?
Exactement, tout à fait. Donc maintenant nous avons plus de 500 jeux de société adaptés actuellement que nous rendons accessibles à tous. Aux personnes en situation d'handicap, mais que ce soit visuel ou moteur ou autiste, nous travaillons profondément sur ce problème-là, parce que le jeu permet d'avoir des liens entre personnes valides et personnes en situation de handicap.
Merci. Alors, Marie-Claire, comment ça s'est développé sur les 10 ans ? Est-ce qu'il y a eu des moments clés dans votre développement ?
Moi, j'aime beaucoup aussi les jeux de société. Donc... En fait, j'adaptais des jeux pour ma fille qui est non-voyante aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Aman. Et on a, pour l'association, ça s'est développé petit à petit. On faisait des rencontres déjà entre adhérents régulièrement, deux fois par mois. On faisait des rencontres dans une salle qu'on louait, ou qu'on nous prêtait gracieusement. Et on se rencontrait avec des adhérents, enfin, que ce soit des personnes valides ou que ce soit des personnes non-voyantes, pour jouer des jeux de société. Et petit à petit, on s'est fait connaître par des stands dans différentes, par exemple les fêtes des associations au Parc Borély.
Ah oui, vous avez pris le temps d'aller au Parc Borély. C'est des espaces de visibilité.
Voilà, on tenait des stands. Il y avait la fête des associations du 5e dans le Parc Longchamp. Et puis, on a eu l'opportunité aussi de faire un projet d'association pour faire des jeux dans les ludothèques, dans les bibliothèques de Marseille. On y allait une dizaine de fois dans l'année, que ce soit à la bibliothèque des 5 avenues, bibliothèque Castellane, bibliothèque de la Grognarde. On allait dans les bibliothèques sensibiliser en fait les personnes présentes dans la bibliothèque et des groupes de personnes handicapées ou groupes de centres aérés, enfin tous ceux qui s'inscrivaient dans la bibliothèque qui étaient avertis que ce jour-là, parce que c'était un calendrier, donc ce jour-là on était à telle bibliothèque et donc les gens venaient s'inscrire pour jouer à nos jeux de société, et en même temps c'était une sensibilisation aux enfants et aux parents aussi, parce que évidemment les enfants venaient soit avec le centre aéré, soit avec leurs parents.
On va revenir plus en détail après sur les actions de sensibilisation justement dans les bibliothèques et sur la ludothèque. Mais d'abord, est-ce que vous êtes un peu soutenu par les élus locaux, par l'État? Est-ce que vous avez des financements? Est-ce qu'on vous aide à développer l'association?
Au début, il fallait se faire connaître et voir si un peu notre projet pouvait bien se réaliser et marcher. Donc après, on a eu des petites subventions, parce que les subventions, c'est plus comme avant. Nous avons eu des petites subventions. Moi, je sais que personnellement, j'ai ramené énormément de jeux que j'ai rendus accessibles avec mes bénévoles, que je remercie beaucoup. J'en profite au passage. Jean-Claude et Roseline qui nous aident énormément et qui font ce travail chez eux. Je trouve ça formidable. Ce sont des artistes. Et petit à petit, donc, on a eu des petites subventions qui nous a aidés. On n'a pas trop de dons, justement. On est aussi à la recherche de dons et de bénévoles. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile.
Oui, donc on a des petites subventions par la mairie et par le conseil départemental. On se déplace. C'est vraiment une ludothèque ambulante. Donc, pour l'instant, on a du mal aussi à trouver des personnes bénévoles parce qu'en fait... on n'a pas vraiment de siège. On a le siège social, mais c'est à notre domicile. On n'a pas vraiment de locaux pour se rassembler. Donc, si on se rassemble, il faut louer une salle qu'on emprunte à la Cité des associations, donc à la ville de Marseille. Et dans une salle que la mairie nous prête aussi.
Gracieusement.
Donc là, c'était au 17 boulevard Jeanne d'Arc. C'est une salle de la mairie du 5e.
À Marseille.
Et comme elle est ambulante, vous avez un véhicule qui vous permet de déplacer tous les jeux
Alors, on a un véhicule, non, justement, on en voudrait un au nom de notre association. C'est où on a la chance avec les bénévoles qui nous. On se déplace avec eux, où on se prend un taxi. Où il y a possibilité de temps en temps, pas tout le temps, de se déplacer avec un transport pour personnes en situation de handicap qui nous permet d'aller d'un point à un autre.
Ça serait pas mal pour vous d'avoir un véhicule à disposition pour pouvoir facilement déplacer vos jeux.
C'est ce qu'on aimerait bien, avoir vraiment un véhicule pour amener plus de jeux déjà et vraiment mieux se faire connaître et se faire comprendre aussi à travers le jeu.
Et un local pour stocker, parce que là, tous les jeux sont chez vous, c'est ça? Vous n'avez pas de local dédié?
Alors, on n'a pas de local. Il y a une partie de jeux qui sont chez Marie-Claire, une partie chez moi, une partie dans un garage, dans un autre. C'est vraiment un peu compliqué parce que quand nous faisons de la sensibilisation à travers le jeu, on a des valises où on met tous ces jeux. Donc, des fois, il faut aller dans un endroit, après dans un autre, après dans un autre. Et c'est vrai que c'est compliqué.
Donc parlons de sensibilisation. Donc vous allez dans des bibliothèques ou vous êtes dans la salle là, que la mairie vous prête. Donc quel est le public qui vient quand vous faites des actions, Marie-Claire?
Ben là, je l'ai dit, c'est les centres aérés et les parents avec les enfants. Après, on a aussi des interventions dans des centres spécialisés. On allait dans un EHPAD pour personnes handicapées, aussi bien handicapées physiques que handicapées intellectuelles. Donc là, on y a été pendant 7 ans, tous les 15 jours, et soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, ça dépendait des années. Donc là, on a fait des jeux régulièrement avec eux, ça leur faisait une distraction une fois par semaine.
Et est-ce que vous faites ce cours confronter des personnes vivant des handicaps et des personnes valides?
Ah oui, le plus possible.
Donc, quand vous allez dans un établissement spécialisé, vous le dites à vos bénévoles pour qu'il y ait des enfants valides qui puissent venir et vice-versa. Quand vous allez dans une bibliothèque, vous faites appel à votre réseau d'établissements spécialisés pour dire « Ah, il va y avoir des esclaves sur cette bibliothèque, n'hésitez pas à venir. »
Tout à fait. Donc, ça se passe comme ça. Donc, les gens s'inscrivent à la bibliothèque, ils le savent à peu près 15 jours, 3 semaines avant, qu'il va venir une ludothèque avec des jeux de société adaptés. Donc, les enfants sont au courant, les parents. Donc, on leur dit qu'il faudra qu'ils mettent un masque, qu'ils se mettent en situation. Et ça leur permet de jouer, et on joue aussi avec eux, nous-mêmes, et on leur montre qu'on peut très bien jouer sans voir.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés rencontrées au quotidien par des personnes en situation de handicap visuel, pour que les auditeurs et les auditrices valides puissent se rendre compte des difficultés?
Alors, les difficultés, il y en a pas mal. Alors, chez les non-voyants, il y a ceux qui n'y voient pas du tout et ceux qui y voient très peu. Et c'est vrai que quand on y voit très peu, on a tendance à essayer de regarder pour voir la couleur, la forme. On touche et on regarde. Et c'est pour ça qu'on a énormément de jeux qui ont des couleurs différentes. Ce sont des jeux qui sont contrastés, il y a des couleurs différentes, qui permettent à des personnes, même qui sont du bel âge, que la vue baisse, on met des couleurs différentes pour qu'ils puissent continuer à jouer, vu qu'eux n'ont jamais été non-voyants, donc ils ont pas le toucher développé, donc ils se servent un peu de leurs yeux et un peu de leur toucher. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à jouer avec nos jeux. Sinon, ils ne peuvent plus jouer aux jeux classiques, on va dire, parce que voilà, ils ont perdu un peu de vue, beaucoup de vue, ils ont perdu de l'autonomie, le sens un peu de l'orientation. Donc, à travers nos jeux, on travaille beaucoup là-dessus.
Alors, les difficultés dans la vie quotidienne. Pour un non-voyant, c'est aussi de se déplacer, bien sûr. Dans les transports, bon, on y arrive, hein, mais c'est toujours un peu plus difficile. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait une sensibilisation avec quelqu'un qui marche avec une canne blanche pour pouvoir savoir ce que c'est que marcher avec une canne blanche, sans voir.
Donc vous demandez à des personnes valides de mettre un masque sur les yeux et ensuite de marcher avec une canne pour se rendre compte des difficultés.
Voilà. Puis on leur montre aussi ce que c'est le braille, de façon ludique, hein, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas se servir du braille, mais au moins qu'ils sachent
L'écriture braille et l'écriture pour les non-voyants, voilà, qui avait des points en relief.
Qu'on peut retrouver dans l'espace public, dans différents endroits.
Oui, C'est vrai que maintenant, il y a du braille, même sur les portes, sur les sonneries de portes, sur les ascenseurs, sur les médicaments maintenant.
Et on a remarqué avant de venir au studio que sur la sonnette, il y a marqué « porte en braille ».
Ah, ça c'est bien. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que les autorités publiques ont amélioré le développement du braille dans l'espace public afin de vous faciliter la vie ? Ou c'est encore
Alors,
beaucoup
ils
à développer ?
Sont... dans les espaces publics, il n'y a pas spécialement du braille, mais il y a au moins les escaliers qui sont signalés par des tapis podotactiles, c'est-à-dire qu'on sent au pied qu'il va y avoir un escalier ou qu'il va y avoir aussi, c'est au bord des fosses de la fosse du métro, il y a des bandes podotactiles pour nous indiquer qu'on est au bord du quai. Il y a aussi dans les gares SNCF, il y a des rainures au sol qui servent à suivre, mener au point stratégique de la gare, c'est-à-dire pour acheter des billets, pour l'accueil. Il y a des lignes au sol qu'on peut suivre avec la canne blanche, ainsi que dans la bibliothèque de l'Alcazar, par exemple, à Marseille, et dans certains lieux publics.
Donc ça, c'est des repères qui facilitent le quotidien.
Oui.
Qu'on n'avait pas avant... à mon époque.
Et oui, et qui vous facilite pour vous aider à sortir.
On va dire aussi qu'il y a les feux sonores quand même, qui sont importants, qui nous indiquent qu'on peut traverser avec une télécommande. Bon, c'est vrai qu'il y en aurait plus, ce serait mieux, mais il y en a quand même. Il y a quand même certains feux sonores qui parlent. Et il y a aussi certains lieux publics qui sont indiqués par une borne sonore, qui indique qu'on est arrivé à l'endroit où on veut se rendre, voilà. Sinon, il y a quand même l'informatique aussi qui nous aide beaucoup maintenant, parce que...
Il y a des intelligences artificielles.
Oui, déjà pour lire l'ordinateur, pour lire... et puis pour lire le GPS du téléphone, et pour lire le téléphone, tout simplement, hein, On peut aussi lire le GPS pour se déplacer.
Et alors, il est pas mal le GPS pour se déplacer sans l'aide visuelle ?
Il y en a certains qui se mettent au point petit à petit, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais on peut quand même demander où on est.
C'est ça, parce que moi, je le trouve pas... en étant valide, je le trouve pas adapté. Par exemple, si j'ai les écouteurs sur le vélo, je ne connais pas mon chemin et je n'ai pas le visuel, je me plante la plupart du temps.
Ah ouais.
Ouais, c'est pas encore vraiment au point, mais c'est mieux que rien, quoi.
Ah bah oui, ça, j'imagine que c'est mieux que rien. Et donc, il y a la lecture aussi sur les ordinateurs et les téléphones.
Avec la synthèse vocale, oui.
Et ça, c'est assez au point pour vos recherches Internet, etc.
Internet, pas tout à fait. Pas tout le monde est vraiment au point, mais... Et puis, ça se complique de plus en plus, parce qu'à chaque fois, il faut aller sur Internet, mais...
Et non. Est-ce que vous avez des claviers en braille ?
Alors le clavier, il est tout à fait ordinaire, le clavier pour écrire. Par contre, on a des claviers pour lire l'écran aussi en braille. Et ça, c'est bien pour ceux qui travaillent dans les bureaux, ouais, c'est très efficace. Ouais.
Et donc, je renouvelle ma question, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui pourraient aider à être développées dans l'espace public ou par des entreprises pour faciliter la vie ?
Je pense que oui, il y a encore beaucoup à faire. Des idées comme ça qui me traversent l'esprit, pas beaucoup. Moi, ce que je dis, c'est que quand il y a des travaux, il faudrait mettre des barrières, pas des ficelles ou des cordes. Non, je dis qu'il faudrait mettre vraiment des barrières pour que le non-voyant ne tombe pas dans le trou, qu'il ne doit pas passer par là, qu'il y ait toujours quelqu'un... qu'il fasse attention, par exemple une échelle, le monsieur monte sur l'échelle, il travaille tranquille, mais il ne sait pas si un non-voyant va passer par là, il risquerait déjà de se faire mal, mais de faire tomber la personne qui est en haut de l'échelle aussi. Donc je dis qu'il faudrait être à deux, c'est un exemple, un qui travaille et un qui est en bas en train de surveiller. Bon, on ne va pas dire qu'il y a un non-voyant qui va passer tout le temps, mais c'est pour éviter des accidents.
Et puis à Marseille, précisons, il y a énormément de voitures sur les trottoirs.
Tout à fait.
Qui, j'imagine, n'aide pas à votre déplacement.
Alors ça nous dérange énormément entre les voitures, les motos et les trottinettes, je ne vous dis pas. Hein. On est vraiment très embêtés.
C'est vrai que les trottinettes sont garées n'importe où, il n'y a pas de, trop
Exactement.
D'espace. Ouais. On va se faire une petite pause musicale. On va écouter Marilou by Marilou de Marilyn Maillot qui vient de sortir ce single et le disque Mauvaise Fille au pluriel réalisé par Émilie Marche sortira le 27 octobre prochain.
On m'appelait Marilou, j'étais la chèvre et le chou, la fille qui s'est pas trouvée, la case qu'on n'a pas cochée. On me disait tu vas où, on me voulait dans les clous, entouré d'autres visages sur les photos de voyage. Marilou, c'est un nom pour le grandiose, ça donne envie d'autre chose. On avalait mes mots doux, je les envoyais partout. En rose et noir je dansais, je ne voulais pas m'ennuyer. On m'appelait Marilou, je n'étais pas sage du tout. Et du haut de mon balcon, je perds encore la raison.
Écoutez Fréquence Mistral dans l'émission Micro Ouvert avec l'association Dascla. Alors, est-ce qu'on dit Dascla ou Daselka?
D-A-S-L-C-A.
D-A-S-L-C-A, voilà. Et j'essayais de ne pas dire l'acronyme, mais il faut dire l'acronyme. Désolée de m'être trompée avant. Alors, nous sommes en présence de Abderrahman et Marie-Claire. Donc, par exemple, là, on est dans une bibliothèque. Je suis une personne valide, alors j'ai mis un masque sur mes yeux, un bandeau, pour être à égalité avec une personne malvoyante. Et donc, quel jeu vous me proposez de faire?
Je peux vous proposer le jeu de puissance 4, qu'on peut jouer ensemble, tous les deux. Donc, vous avez votre masque. Vous allez remarquer que sur les pions, on ne va pas dire la couleur parce que qu'ils soient rouges et jaunes, pour nous, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est important de le signaler quand même. Par exemple, sur le rouge, tous les pions rouges, on va leur mettre un repère au milieu, que ce soit d'un côté du jeton ou de l'autre. Ça permet que le jeu, il est au milieu de nous deux, pendant que vous, vous jouez avec votre pion que vous avez dans les mains, moi je vais sentir de l'autre côté, de mon côté de puissance 4, sur la grille où c'est que vous avez joué.
Moi j'ai le droit d'écrire où est-ce que j'ai joué pour me faire une représentation schématique dans mon cerveau.
Vous avez le droit, vous avez le droit de toucher le plateau aussi, pour vous faire un deuxième repère. Et après moi je vais jouer, et ça va être comme ça, ainsi de suite. Et chaque fois vous touchez le plateau et vous regardez. Donc, le puissance 4, il faut faire une ligne droite par 4 pions, horizontale, verticale ou en diagonale.
Donc, ça aussi, moi, m'oblige à être beaucoup plus dans la mémoire.
Exactement. C'est plus dans le cerveau qu'il faut réfléchir, se concentrer, beaucoup se concentrer. Et pour venir à l'espace, il faut bien toucher l'espace du plateau. Pour bien voir si j'ai joué dans un coin ou à côté de vous ou plus loin ou au-dessus de vous.
Et Marie-Claire, est-ce que vous avez vous aussi adapté des jeux? Vous pouvez nous en présenter?
Alors moi, les adaptations que je fais, c'est surtout du braille sur les cartes. Donc, c'est plutôt pour aider ceux qui ne voient pas. Mais sinon, je peux vous proposer un jeu de bâton qu'on a fait dans l'association. C'est un jeu qui ressemble au jeu de Fort Boyard, où on a 18 bâtons. Il faut en prendre un, deux ou trois. Et il faut retirer chacun notre tour, mais pas prendre le dernier bâton. Celui qui prend le dernier bâton, il a perdu. Donc ça, c'est aussi un jeu qu'on joue avec quelqu'un qui peut se bander les yeux. Et on est à égalité pour jouer, quoi.
Marc-là, vous disiez que vous adaptiez les cartes en braille. Est-ce que c'est des cartes classiques ou c'est des cartes de gamer avec des personnages, etc.?
Les deux. Mais on adapte les jeux avec lesquels on pourra jouer plus tard. C'est-à-dire, on adapte le jeu, par exemple, du devine-tête ou du Uno, du mille bornes. Des jeux classiques qui ne posent pas de problème pour jouer avec un non-voyant et une personne valide.
Je voulais ajouter quelque chose sur tous ces jeux de cartes que nous rendons en braille. C'est pour pouvoir jouer avec quelqu'un qui y voit. Donc, il y voit, on peut jouer à la belote ensemble, on peut jouer au Uno ensemble, on peut jouer au devine-tête, au mille bornes. On peut jouer à énormément de jeux entre voyants et non-voyants, sans que le voyant met un masque sur ses yeux. Puisque lui, la carte, il la voit. Mmh. Il va voir qu'il y a du braille. Bon, il ne connaît pas le braille. Mais il va pouvoir jouer avec quelqu'un qui ne voit pas parce qu'il va lire le braille. Il va pouvoir suivre son jeu et gagner ou perdre. Après, ça, ça dépend de chacun. Mais c'est pour vous dire qu'on a des jeux qu'on peut jouer aussi avec... pas obligé de mettre un masque tout le temps. Mais qu'on peut jouer avec des personnes voyantes.
Oui, il y a deux temps. Il y a le temps de la sensibilisation pour comprendre les difficultés avec le masque. Et il y a aussi après toute la partie de rencontre et de jeu et de passer du bon temps ensemble.
Voilà, tout à fait. Parce que le jeu est un moyen de communication. Donc, on communique à travers le jeu. Et on voit aussi que tout le monde peut jouer, les difficultés, pas de difficultés. On a des jeux où on peut chanter, on a des jeux où on peut sourire, rire, et sans spécialement avoir tout le temps un masque sur les yeux. Mais moi, je conseille de faire un peu l'expérience.
Oui, bien sûr.
Voilà, pour vous sensibiliser à travers le jeu.
Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez plus de 500 jeux actuellement à la ludothèque ?
Oui, tout à fait. Nous avons plus de 500 jeux que nous avons rendus accessibles à tous, parce que autant aux personnes malvoyantes et non-voyantes, mais aussi à des personnes... moi, j'ai un ami qui est sur fauteuil et qui a un problème, c'est que sa main, elle ne peut pas aller jusqu'au plateau. Alors, il aime bien jouer aux jeux de dames. Donc, il m'a dit, moi, j'aime bien les jeux de dames, mais je ne peux pas jouer parce que ma main, elle ne va pas jusqu'au plateau. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Bon, j'en ai parlé à un de mes frères et on a décidé de faire des pions qui sont hauts, en hauteur. Donc on a un jeu de dames qu'on a rendu accessible autant pour les voyants, les non-voyants et pour les personnes qui ont des problèmes de main. Donc il a que deux doigts qui marchent, il peut pincer le pion et le déplacer parce qu'il est en hauteur, donc il peut l'attraper.
Donc voilà. L'association s'est développée au départ par rapport au handicap visuel.
Oui.
Et petit à petit, vous l'avez ouvert à différentes personnes.
Exactement.
Il y a aussi des personnes sourdes qui viennent.
Nous avons des personnes malentendantes, nous avons des personnes muettes, nous avons des personnes autistes et mentales et d'autres handicaps qui viennent avec leur éducateur ou leur éducatrice ou seuls, selon. Et qui jouent avec nous et qui sont bien contents de découvrir que cette ludothèque existe et qui rend la vie facile à travers le jeu, qui permet de dialoguer, comme je disais. Hein, c'est un moyen de faire des liens, de se rencontrer, de pouvoir voir la difficulté de l'autre.
Et vous restez à l'écoute parce que justement, là, vous dites que vous avez adapté le jeu de dames. quand vous accueillez des vous accueillez du public et vous essayez de après d'adapter les jeux pour qu'ils soient au plus près des envies et des besoins des personnes.
Exactement, on est plusieurs dans l'association. Quand on fait une animation, avant de la faire, on discute entre nous, on dit dès qu'on voit qu'il y a une personne qui a une difficulté, on essaie de savoir pourquoi et comment, et en parler avec leur accompagnant, leur accompagnatrice ou accompagnateur. Et la prochaine fois, quand ils reviennent, eh ben, hop, on espère qu'on a résolu le problème pour qu'ils puissent jouer.
Donc vous êtes combien de bénévoles? Et aussi, mon autre question, c'est, oui, vous êtes des personnes qui n'avaient pas les mêmes sensibilités pour l'adaptation au jeu, pour être assez complémentaires dans les jeux que vous développez?
Alors, tout à fait. Alors, exactement, combien on est de bénévoles? On n'est vraiment pas beaucoup et on n'est pas des bénévoles continus. Marie-Claire et notre amie et moi et ce couple de personnes âgées, on va dire qu'on est 5 bénévoles continus. Et tout le reste, c'est des personnes qui vont venir 2 heures dans la semaine ou 2 heures par 15 jours. Voilà, et donc nous, ça nous rend quand même service, hein, énormément. Donc, quand on veut adapter un jeu, on se réunit, on discute tous ensemble. On dit qu'il ne faut pas oublier qu'il faut du relief, il faut du toucher différent, il faut du contrasté, il faut penser à lui, il faut penser à l'autre. On essaie de faire tout pour qu'un jeu soit accessible à tout le monde, mais ce n'est pas évident. C'est pas facile. Mais déjà, si on a réussi à le rendre accessible avec pour la personne qui voulait vraiment jouer à ce jeu, pour nous, on a gagné.
Et Marie-Claire, combien de temps ça vous prend de traduire en braille, de créer les cartes? Ça doit être assez long.
Pour un jeu, on va mettre une journée entière pour un jeu de cartes. Après, ça dépend des jeux de cartes. On a adapté le tabou. Alors là, on était 3 ou 4 et on a mis un an à le faire parce qu'il y a énormément de cartes.
Et oui, je vous pose cette question parce qu'on ne se rend pas compte du temps que ça prend de rendre accessible aussi et que c'est précieux le travail que vous faites.
Oui,
tout à fait.
Alors moi, j'adapte des jeux, mais aussi comme je suis vice-présidente, j'ai énormément de travail en informatique et en secrétariat et en tout ce qui est papier administratif. Ça prend énormément de temps. Et c'est là où vraiment on aurait besoin de bénévoles pour nous aider parce que c'est tout ce qui est administratif où on recherche beaucoup de bénévoles et aussi pour adapter les jeux, bien sûr.
Donc c'est un appel aux auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Si vous avez, vous êtes enclin à faire de l'administratif pour aider cette ludothèque adaptée, ça sera très bienvenu.
Oui. Merci. Et notre site, c'est www.daslca.com.
Je vous propose de faire une deuxième pause musicale en écoutant Agar Agar, I Am That Guy. Et juste pour info, Agar Agar devait jouer au Festival au Large au Théâtre Sylvain le dimanche 2 juillet, qui a été annulé, rappelons-nous, suite aux émeutes contre le crime policier sur Naël. The house. Agar Agar sur les ondes de fréquence Mistral. Et donc, pour continuer cette interview, comment ça s'est déroulé le votre dixième anniversaire? Nous étions là, Fréquence Mistral, nous avions fait un reportage. Mais alors, les conséquences, le bilan de tout ça, Marie-Claire?
Il y avait énormément de monde. Nous étions 140 personnes. Et il y avait 4 élus qui nous ont fait l'honneur de venir. Donc, il y avait Isabelle Lossine, qui est adjointe au maire de Marseille, qui représentait Benoît Payan, le maire, qui a fait un beau discours. Elle est déléguée auprès des personnes handicapées. Il y avait Didier Jouot, qui est le maire du 5e arrondissement, 4e et 5e arrondissement. Il y avait son adjointe Enda Enraoui, qui est aussi délégué aux personnes handicapées. Et il y avait monsieur Anthony Bérard, adjoint au maire du 13e et 14e arrondissement, délégué aux personnes handicapées. Ils nous ont tous fait un discours de soutien et de félicitations pour notre association. Nous les remercions. Nous les remercions, bien sûr, tous les quatre. Et donc, l'anniversaire s'est passé dans la salle de la mairie du 4e et 5e arrondissement. Il y avait une trentaine d'associations présentes, des représentants d'associations. Il y avait des professionnels, des éducatrices spécialisées, des enseignants, des responsables d'associations. Des directeurs de foyer, des
psychologues, enseignantes.
Donc c'était un grand moment pour reconnaître le travail que vous faites régulièrement.
Voilà, que nous avons fait depuis 10 ans. Il y avait aussi vraiment tous les âges, puisqu'il y avait des personnes âgées et un centre aéré de 30 enfants qui étaient présents. Donc il y avait vraiment tous les âges représentés, quoi.
Alors, pour conclure cette émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel secteur vous travaillez? Est-ce que vous êtes sur Marseille? Quels arrondissements? Est-ce que vous êtes plus largement sur la région sud?
Alors, nous travaillons sur Marseille. Enfin, travaillons bénévolement. nous sommes sur Marseille. Et si on nous appelle, avec plaisir, on va à Aix-en-Provence... où on a été, dans la région sud, oui. On a déjà été jusqu'à Lyon. Si on nous appelle, on sera ravis de pouvoir se déplacer un peu plus loin. Mais bon.
On est dans tout Marseille et la région un peu PACA aussi, parce que, comme le dit Marie-Claire, nous avons été à Lyon, on a fait Nice, nous avons fait Vitrolles, Auriolles, Marignane. Nous avons fait pas mal de petites villes qu'il y a autour.
Pertuis
aussi.
Donc, qui c'est qui vous invite? C'est des bibliothèques ou des particuliers peuvent vous inviter si, pour une fête, s'il y a un espace dédié?
Alors, c'est les bibliothèques ou les mairies à côté de Marseille qui nous font intervenir, où nous avons aussi des familles qui nous intervenons pour des anniversaires. Voilà, on a oublié de le dire. S'il y en a qui veulent faire des anniversaires, on peut venir avec les jeux, faire jouer les enfants à travers nos jeux et leur faire une petite sensibilisation aussi. Il faut quand vous nous appelez, on peut discuter de quelle façon on peut venir et quelle aide vous pouvez nous apporter pour qu'on vienne se déplacer ou vous faire une animation.
Oui, du coup, vous aidez sur les questions de transport. On a bien
Voilà.
compris. Mais n'hésitez pas, donc, chers auditeurs et auditrices, à solliciter l'association
DASLCA.
DSLCA. Et est-ce que... comment vous joindre si on a envie de vous
Alors, il y
contacter?
a le téléphone 06 63 17 74 70. Ou sur le site, il y aura notre adresse email. Mais déjà sur le site, il y aura pas mal d'informations. C'est www.daslca.com.
Quelles actions prévues prochainement?
Alors, le 2 septembre, nous serons à la fête du 4e et 5e arrondissement. Ce sont des associations qui se réunissent. Nous serons de 10h à 17h. Le lendemain, le 3, nous serons sur le Vieux-Port. C'est la fête de toutes les associations. Il y a plus de 400 associations. Nous serons aussi. Et le reste, je vous le dirai quand j'aurai les confirmations des dates. Mais il y aura pas mal de choses aussi qui est prévu.
Eh bien, très bien, on fera le suivi à la rentrée de vos dates en bibliothèque et etc.
Merci beaucoup. Et je vais vous dire aussi, nous intervenons aussi dans les centres aérés et les écoles qui nous font intervenir pour faire de la sensibilisation dans des classes.
Donc les centres sociaux qui nous écoutaient, n'hésitez pas à vous solliciter, quoi.
Exactement, merci beaucoup. Même les entreprises, on a fait de la sensibilisation dans les entreprises aussi.
Et puis surtout les bénévoles, on cherche des bénévoles.
Donc des partenaires et surtout des bénévoles. Merci beaucoup de vous être déplacés jusque dans les studios de Fréquence Mistral.
Nous nous remercierons Rob et Fréquence Mistral. Nous sommes vraiment contents de les avoir rencontrés et nous les remercions beaucoup du fond du cœur.
Et à la prochaine et on espère vous retrouver à l'automne prochain pour des actions. Peut-être que la radio vienne dans une des actions de la ludothèque.
Nous espérons beaucoup, surtout que nous attendons une réponse et ça serait merveilleux que vous veniez. Merci à vous.
Merci.
Bonne journée.
Merci. Au
Bonne
revoir.
journée aussi.
Au revoir, très chers auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. La suite de vos programmes habituels tout de suite.
Au revoir à tous les éditeurs et éditrices. À bientôt.